France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Il est venu le temps de la cathédrale Notre-Dame. Il y a 5 ans, le 15 avril 2019, des flammes immenses déchiraient le ciel de Paris et embuaient l'horizon. Et l'effondrement de la flèche à 19h45 était diffusé en boucle, en mondovision. L'édifice vieux de 850 ans a eu 5 ans pour renaître de ses cendres. Une première messe y sera célébrée le 8 décembre prochain. En attendant, Notre-Dame s'est refait une charpente, une nouvelle forêt. Sa flèche se dresse de nouveau fièrement à plus de 90 mètres de haut dans le ciel de la capitale et le monument a retrouvé sa silhouette. Alors ce soir, on a voulu savoir où en était exactement le chantier et mesurer ce qui a été accompli par les 2000 personnes qui ont travaillé depuis 5 ans. Les fondeurs, sculpteurs de pierre, charpentiers, ébénistes, dinandiers, cordistes, patineurs, maîtres verriers et autres facteurs d'orgue, des artisans porteurs d'une excellence que l'on dit à la française. Alors n'hésitez pas, toutes les questions que vous vous posez sur ce chantier pharaonique d'un autre temps sont les bienvenues. Et vous pouvez nous dire aussi votre attachement à Notre-Dame, car ce monument suscite des passions particulières, au point que 340 000 donateurs ont permis d'amasser 850 millions d'euros pour sa restauration.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Vendée, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Une idée. Toutes ces charpentes qui ont été construites pour soutenir Notre-Dame, hein, il y en a eu beaucoup, et elles vont être retirées. Est-ce que j'espère qu'elles ne vont pas être détruites parce qu'elles sont de toute beauté, ces charpentes? Et est-ce qu'avec ces charpentes, on pourrait pas reconstruire quelque part en France, je dis en France, France large, ça peut être la Réunion, une autre petite chapelle, mais pour qu'elles servent à quelque chose, ces charpentes de soutien.
Bon, on va poser la question à nos spécialistes. Alors avec nous, pour répondre à toutes vos questions ce soir, à celles d'André et à celles qui vont suivre, Mathieu Lours, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de l'architecture et des édifices religieux et l'un de ceux qui connaît le mieux Notre-Dame. Vous êtes l'auteur de Mystères et secrets de Notre-Dame de Paris aux éditions Larousse et d'un Notre-Dame des siècles aux éditions du Cerf. Nous sommes aussi en ligne avec Flavie Vincent Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes restauratrice de vitraux et vous y avez travaillé vous aussi. Et pour finir, Jean-Louis Bidet, charpentier, directeur technique des ateliers Perrault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez travaillé sur la fameuse forêt, la reconstruction de la charpente médiévale, de la nef et du chœur. C'est la pièce maîtresse de la cathédrale. Alors j'ai l'impression quand même que la question d'Alain, elle va plutôt vers vous, Jean-Louis Bidet. Est-ce que on peut garder les charpentes qui ont été faites pour soutenir Notre-Dame au début des travaux?
Oui, en fait, je comprends que ce sont des pièces de structure provisoire, de maintien d'une couverture de protection, qu'ils sont déposés en conservation en attente, en effet, peut-être d'une réutilisation autre.
Mais elles ont été posées à quel moment?
Juste après, pendant la phase de sécurisation.
Oui, c'est-à-dire pour éviter que tout s'effondre.
D'une part, tenir les murs du fait que les voûtes étaient fragilisées, la charpente n'était plus là avec son report de charge qui maintenait des équilibres sur l'ensemble de l'édifice. Donc ces pièces ont été mises en place à juste titre avec une couverture provisoire pour protéger au mieux l'édifice. Mm-hmm. Qui sont déposées aujourd'hui et on retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure, la forêt qui a pris place sur les murs bahuts dans le ciel de Paris.
La forêt, c'est presque mythique. Pourquoi ?
C'est le nom de vis-à-vis du nombre de pièces qui constituent cette superbe charpente des 12e et 13e siècles. Donc beaucoup de pièces verticales, il y a des horizontales, il y a des pièces triangulées. Donc il y a une forme d'élévation de la structure plutôt verticale qui peuvent rappeler en effet la forêt dans laquelle nous sommes allés chercher les bois pendant l'hiver dernier et celui d'avant pour reconstruire, choisir les pièces de bois dans ces arbres pour reconstruire ces fameuses charpentes.
Où les avez-vous trouvées ?
Dans les forêts françaises, bien évidemment. Le chêne, les forêts françaises, les forêts domaniales pour la plupart, quelques forêts privées également, des donateurs, des gens qui ont contribué pour partie plus ou moins équilibrée. Ça dépendait des besoins de pièces dans leur section, dans leur longueur et dans leur singularité. Parce qu'il y a des arbres droits, des arbres un petit peu moins droits. Bon, les choix ont été faits.
Racontez-nous l'histoire de cette forêt médiévale, Mathieu Lours.
Alors, la charpente de Notre-Dame, c'était un ensemble remarquable. Une des rares cathédrales qui, pendant 8 siècles d'existence, n'avait pas subi d'incendie. Alors, on avait d'une part des bois du XIIe siècle qui ont été réincorporés au XIIIe siècle dans une nouvelle charpente. Et puis, au XIXe siècle, Viollet-le-Duc a réassemblé des bois et produit également des bois nouveaux, enfin utilisé des bois nouveaux, pour la charpente du transept et la réalisation de sa flèche. On avait donc un ensemble qui constituait visuellement quelque chose d'homogène, mais qui dans sa nature était très divers. Et une charpente remarquablement bien étudiée, une des rares charpentes de cathédrale à avoir été modélisée quelques années juste avant sa destruction.
Oh, mais ça, c'est une chance incroyable qu'elle ait été modélisée de manière numérique.
Oui, c'est l'architecte Rémy Fromont qui a réalisé cette étude sur la charpente de Notre-Dame. Et donc, on peut travailler avec un guide qui permet justement d'avoir non pas seulement une charpente nouvelle, mais une charpente nouvelle qui a déjà une dimension mémorielle.
C'est-à-dire
qu'elle est travaillée de manière à rappeler son histoire, rappeler l'histoire de la charpente précédente, avec un travail à la hache pour la nef et le chœur, et un travail à la scie, par exemple, pour le transept et la flèche, de manière à ce qu'on puisse reconnaître ce qui remplace du bois 12e, 13e et ce qui remplace du bois 19e.
Jean-Louis Vidé.
Oui, reproduire en fait les techniques, les gestes à travers des choses connues qui étaient ces charpentes donc avec du bois choisi en forêt avec les pièces correspondantes au mieux et puis des bois coupés, des bois équerriers à la hache, des haches que nous avons refait faire dans un atelier de taillanderie que nous avons réouvert, fait réouvrir donc en
comment
Alsace.
Comment vous avez su qu'il y avait tel modèle de hache qui était utilisé à l'époque?
À travers des archives, à travers des recueils de données, les architectes Rémy Fromont, Cédric Tronceau, pendant 6 mois dans la cathédrale, on relevait, comme disait à l'instant Mathieu, toutes les pièces de charpente, les dispositions, les structures, les assemblages, les positions des chevilles, pour que la restitution choisisse de refaire une charpente le plus fidèle possible à ce qu'elle était avant l'incendie. Donc sur ces pièces de bois, il y a des traces, il y a ces techniques connues de retailler à charpente, de débiter les bois à la hache, qu'on appelle l'écarissage manuel, et avec des outils, des traces d'outils laissés. L'outil est tranchant, mais l'outil laisse sa trace visuelle. Et c'est ce que nous avons essayé de reproduire au mieux en reproduisant ces outils pour être au plus près de l'existant.
Ça devait être extrêmement émouvant pour vous de travailler avec des outils différents, non ?
Oui, de comprendre d'où venait cette charpente. Elle était connue, les informations étaient complétées à travers ses relevés. Il y a eu des ortho-images, des scans de la charpente, ce qui a permis finalement de la refaire au plus près de ce qu'elle était avant. C'est-à-dire quand on est aujourd'hui dans cette charpente, dans ce volume, il y a un certain rappel à ce qu'elle était avant au plus près.
Ça, c'était l'objectif vraiment, Mathieu Lours, reconstruire Notre-Dame en respectant le plus possible ce qu'était cette cathédrale de 850 ans.
Oui, c'est vraiment un chantier exemplaire pour le 21e siècle. Au 19e et au 20e siècle, quand une charpente brûlait, généralement on utilisait un matériau moderne pour la remplacer. À partir de 1825, la flèche de la cathédrale de Rouen brûle, c'est une flèche en métal qu'on a à la place. La charpente de Chartres brûle en 1836, métal. Reims, Première Guerre mondiale, ciment moulé. Là, on revient à l'idée d'une reconstitution, non seulement à l'identique, mais à l'authentique, avec les mêmes matériaux. Et je crois que ça vient après des décennies de redécouvertes.
Justement, ça suscite aussi beaucoup de questions au standard. On a Patrick qui est dans le Nord. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, bah justement, c'était pour réagir à cette reconstruction à l'identique. Et je me demandais si c'était pas un peu le témoin de l'aspect conservateur de notre époque, comme on le reconstruit à l'identique, et que quand même la cathédrale de Notre-Dame de Paris est quand même le témoin de toutes les évolutions des époques, et que en fait finalement c'est comme si on arrêtait l'évolution à notre époque, alors qu'on aurait pu peut-être lui donner des innovations, en tout cas des architectures un peu plus témoin de notre époque à nous.
Ah, alors donc, vous voyez, vous entendez, c'est déjà... C'est toujours très clivant, Notre-Dame, en fait, Mathieu Lours. Alors, pourquoi ne pas avoir tenté quelque chose de plus contemporain, de plus moderne ?
Alors, d'abord, parce qu'on a du contemporain dans cette charpente. On a des fers métalliques avec un système de brumisation contre les incendies. Là, on est à la pointe de la technologie. Vraiment.
Donc, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser du métal, par exemple, à la place des charpentes ? Ben justement, Jean-Louis Bidet.
La charpente disparue lors de l'incendie a été posée sur les murs, contribuait à l'équilibre de l'ensemble de la structure, avec son poids propre, avec ses diffusions d'efforts. Donc elle a parcouru plus de 800 ans, elle nous est parvenue au plus près de ce qu'elle a été lorsqu'elle a été construite, donc sans apporter préjudice dans ses effets de vent, dans ses effets de report de charge, sur l'édifice entier, avec sa structure en pierre.
On ne pouvait pas prendre des matériaux qui auraient pu faire la même chose, des matériaux modernes qui aurait eu le même impact et le même résultat ?
C'est un choix. Le parti pris de reconstruire telle qu'elle était correspond à une certaine unité de la cathédrale. Mmh. Et pour nous, charpentiers, qui avons retrouvé des gestes, en fait, innover, c'est aussi conserver ou ne pas perdre, en tout cas, des techniques, des savoir-faire, les reproduire et les transmettre. La charpente de Notre-Dame médiévale, ou même la flèche, en fait, l'ouvrage géodique en tant que tel, à travers toutes les données techniques, les équilibres de force, de charge, les charpentiers en France aujourd'hui, entreprise française, qui pour un certain nombre participent à cette fabuleuse reconstruction, ont respecté au plus près ce qu'était la charpente avant, dans le choix de refaire à identique, disons, le plus fidèlement possible.
Est-ce que votre travail est terminé aujourd'hui, Jean-Louis Bidet?
Bientôt, les charpentes médiévales...
Où est-ce que vous en êtes, ça on aimerait bien savoir, où est-ce que vous en êtes exactement?
Les bouquets sont posés, parce que la fin d'un chantier, la fin de la pose d'une charpente, c'est la pose d'un bouquet, ce qui vaut pour le cœur, pour un nef et pour la flèche également, quelques mois d'écart. Et puis, la partie bois s'achève progressivement, les couvreurs sont sur les toits maintenant, et puis nous poursuivons la restauration des beffrois, qui ont été touchés également par l'incendie du 15 avril, le beffroi nord et un petit peu le beffroi sud aussi, donc dans les tours en pierre. C'est pas des choses visibles à l'extérieur, ça se passe entre les murs, ces fameux beffrois qui supportent les cloches, qui nécessitent quelques travaux avant de repartir en action pour supporter les cloches.
J'aimerais bien qu'on entende aussi Flavie Vincent Petit qui est en ligne avec nous. Vous êtes maître verrier, ça veut dire que vous avez travaillé sur les vitraux de la cathédrale. Racontez-nous.
Alors là, c'était une aventure assez incroyable, puisque nous sommes intervenus tout de suite après l'incendie et pour déposer toutes les baies hautes, afin que l'architecte puisse consolider en tout cas les voûtes. Et donc ensuite, c'était une longue aventure jusqu'à aujourd'hui, où il nous reste, nous, encore deux baies à poser au mois de juin.
Mmh. Et ça représente combien d'heures de travail, vous avez travaillé combien de temps sur ce chantier?
Alors, on a fait une première opération donc de dépose d'urgence, vraiment.
Donc juste après l'incendie.
Oui. Ensuite, il y a eu toute l'époque de la mise en place des appels d'offres. Ensuite, on a répondu et donc les travaux ont commencé au printemps 2022. Donc nous, ça fait 2 ans en fait que nous travaillons sur les baies.
Mmh. Il y a combien de personnes qui travaillent dans votre atelier?
Alors, on est à peu près 28 à l'atelier. Alors, tout le monde a eu envie forcément de travailler un petit peu sur Notre-Dame. Et puis, on a vraiment l'équipe qui a été à temps plein pour reposer les baies dès qu'elles étaient restaurées. Donc, en fait, on a établi un roulement comme ça de restauration en atelier et repose sur le chantier.
Mmh. Et quand on se retrouve devant de tels chefs-d'œuvre, on pense à quoi?
C'est toujours émouvant et Notre-Dame, en fait, ça va au-delà de chaque œuvre, mais c'est plutôt l'accumulation de l'œuvre qui fait ce patrimoine, en fait, extraordinaire et cette émotion patrimoniale plutôt. Et cette aventure humaine qui emporte comme ça chaque personne et qui, c'est très atypique en chantier, habituellement, ça ne se passe pas de cette manière, mais là, c'est vraiment de l'ordre de l'émotion. Plutôt que de l'ordre de... On regarde une œuvre d'art. Là, c'est pas ça. Là, on est vraiment emporté par l'histoire de la reconstruction.
Mmh. Vous créez aussi des vitraux, Flavie Vincent Petit. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a lancé un concours pour 6 vitraux contemporains figuratifs pour remplacer ceux des chapelles qui avaient été créées par Viollet-le-Duc. Ça suscite une certaine émotion. Est-ce que vous le comprenez? Je dis ça avec beaucoup d'euphémisme.
Hein. Oui, je comprends les deux parties. Il y a vraiment ce côté où ces vitraux en grisaille de Viollet-le-Duc ont été faits pour accompagner les peintures murales, pour redonner en fait une vibration colorée comme Viollet-le-Duc l'imaginait. Donc on est vraiment dans une unité, dans quelque chose de très particulier. Et puis, on a, d'un autre côté, on a cette envie de laisser une trace du 21e siècle et de se dire, ben voilà, on crée une lacune pour refaire une œuvre contemporaine. Mm-hmm. Donc en fait, c'est difficilement conciliable, mais voilà, les deux parties peuvent s'entendre.
Mm-hmm. Mais vous pensez quoi?
Ah.
Joker.
C'est ça.
Bon, laissez une trace, Mathieu Lourse, pour ou contre vous?
Alors ça s'est toujours fait dans l'histoire. force est de constater.
Viollet-le-Duc, il a quand même réinterprété cette cathédrale.
Alors,
j'imagine. Alors d'ailleurs, est-ce que ça suscitait beaucoup de débats à l'époque ?
Alors, il y a eu des débats, parce qu'on voit le projet de Viollet-le-Duc qui lui-même évolue. Quand il est seul maître à bord après la mort de son collaborateur Lassus en 1857, on voit qu'il propose une flèche qui est une flèche beaucoup moins semblable à celle qui avait existé jusqu'à la Révolution française, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que chez Viollet-le-Duc, il y a une pensée cohérente. Mmh. Il y a une cohérence de la pensée. Mmh. Et aujourd'hui, dans la cathédrale qui est en train d'être restaurée, il y a aussi une cohérence de la pensée. Et quand on rentrera dans Notre-Dame à partir du 8 décembre, on découvrira une cathédrale cohérente, qui sera une cathédrale du 21e siècle, qui sera celle de Viollet-le-Duc, plus celle de Louis XIV, plus celle du 13e, plus celle du 12e siècle. Et après, quelle place pour la contemporanéité dans cette cathédrale ? On a un mobilier liturgique qui est contemporain, qui est en train d'être réalisé par Guillaume Bardet. Qu'en est-il de l'équilibre, de la lumière, de la couleur ? C'est évidemment un débat clivant, comme vous le disiez très bien. On est obligé d'être clivé. On aime Viollet-le-Duc, on aime l'art contemporain. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il va y avoir plusieurs arbitrages. Le comité artistique qui se réunit, la commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui sera consultée, il y a l'archevêque, il y a le propriétaire.
Ça va prendre encore du temps, donc ça veut dire par exemple les vitraux, au moment de la réouverture de Notre-Dame le 8 décembre, ils ne seront pas installés ?
Les vitraux, c'est plutôt pour 2026.
Oui, d'accord. Le chantier va durer jusqu'en 2026.
Ces vitraux ne relèvent pas du caprice, ils relèvent de la décision. Et il y a tout un parcours de décision. Et on va voir ce qui va en sortir.
Mm-hmm. Elle est vivante pour vous aussi, Jean-Louis Bidet, Notre-Dame ?
Oui, elle est vivante par les gens qui la restaurent et qu'elle est vivante par les gens qui passent leur vie en ce moment sur Notre-Dame. Il y a un esprit collectif, il y a un objectif commun à atteindre et on le voit très bien à travers les entreprises présentes sur site, que ce soit sur site à Paris ou que ce soit dans les ateliers un petit peu partout en France. Bon, nous, charpentiers en Anjou, en Normandie, notre équipe constituée, on l'a senti à travers nos effectifs à nous, nos équipes des charpentiers.
Vous étiez combien, vous ?
Une quarantaine de personnes, environ. Charpentiers qui ont écarri les arbres, choisir les arbres en forêt, parce que c'était le premier exercice. Ensuite, transformer ces arbres en pièces de charpente, les assembler, faire des levages à blanc, enfin tout le processus d'une charpente avant qu'elle arrive à Paris, prendre place sur les murs. Et tout ça dans un objectif, maçon, terre de pierre, couvreur, charpentier, des relations très, très étroites, très constructives avec les maîtrises d'œuvre et maîtrises d'ouvrage.
Bah justement, il y a Franck qui habite dans la Manche, qui nous appelle et qui a une question là-dessus. Bonsoir Franck. Est-ce que Franck nous entend ?
Oui,
bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Nous vous écoutons. Oui, Franck, vous êtes à l'antenne sur France Inter. Allez-y, nous vous écoutons.
Bien.
Ah, vous avez une émotion. Non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Ouais, non, mais c'est pas le fait d'être à l'antenne sur France Inter. Juste par rapport à ce qui vient d'être dit et tout ce qui est dit, moi personnellement, je l'aurais pas reconstruite la cathédrale, mais l'effort de travail manuel et d'intelligence collective est à souligner, quoi, en fait. Et en proportion du temps qu'a traversé la cathédrale, l'effort qu'on est capable de faire pour édifier quelque chose en termes de bilan carbone et d'intelligence manuelle, d'intelligence cérébrale et collective, démontre qu'on est capable de faire des choses.
Oui.
On pourrait presque dire à moindre frais, moi je vous appelle de Flamanville où on s'évertue à sortir des kilowattheures à 20 milliards avec de l'hypertechnicité, quoi, en fait. Et c'est les écarts entre tout ça, quoi, en fait, qui sont aussi intéressants à souligner.
Ce qui vous touche,
quoi, en fait.
Ce qui vous touche au fond, et je vais,
le travail manuel, quoi, en fait. Quoi.
Bien sûr, et j'entends que ça vous touche justement, c'est l'excellence qu'on a souligné de nos artisans, il faut bien le dire, et c'est assez émouvant d'ailleurs le témoignage de Franck, qui souligne cette synergie professionnelle. Jean-Louis Bidet, vous étiez en train de nous parler de ça justement. Comment vous avez travaillé vous tous ensemble avec les autres corps de métier, et sans doute, j'imagine que quand vous étiez sur le chantier, il n'y avait pas que vous à ce moment-là, dans la forêt.
Ah, dans la forêt, alors d'abord dans la forêt, avec le choix des armes. En fait, de la forêt à la forêt, ça commence ici, la charpente médiévale de Notre-Dame, comme elle a commencé au 12e, 13e, dans le choix des arbres, c'est-à-dire la forêt, ce qu'elle pouvait produire, les besoins de pièces de charpente issues de ces fameux arbres. Donc, on a refait le même processus avec couper les bois, choisir les bois, lune descendante, hors sève, donc l'automne-hiver 2022, pour ce qui est des charpentes médiévales. Ensuite, les transporter en atelier, les écarrir, et en fait, ceux qui étaient au départ à choisir les arbres en forêt, pour certains, se sont retrouvés à poser le bouquet le 12 janvier dernier sur la charpente du cœur. Donc,
ils ont pleuré.
Oui, de l'émotion. Et il y a eu toute une énergie déployée qui n'a pas été très coûteuse. Chacun y a mis de soi. Il y a une énergie Notre-Dame, en fait, qui s'est répandue pour atteindre, en fait, l'excellence, la fierté d'y être, d'en faire partie. Nous avons la chance d'y être. Et on le partage. Et il faut le vivre et bien le vivre. Et il faut s'arrêter de temps en temps pour marquer des moments. Nous l'avons fait pour le bouquet, nous l'avons fait pour les parties d'écarissage. Et aujourd'hui, le temps des charpentiers se termine. Et on rentre un petit peu dans l'histoire, humblement, chacun son tour.
Maintenant, on est en train de poser la couverture, Mathieu Lours, en ce moment.
Oui, c'est ça, les dalles de plomb qui vont permettre à Notre-Dame de retrouver cet aspect métallique, cette couverture métallique qui existe depuis le XIIe siècle. Les dalles de plomb, c'est Maurice de Sully qui, en 1182, fait une donation, l'évêque qui a commencé Notre-Dame sous sa forme actuelle, pour qu'elle soit couverte noblement, c'est-à-dire par du métal.
Mais là encore, est-ce qu'il fallait refaire une charpente au plomb après la pollution au plomb qu'il y a eu à la suite de l'incendie ?
Si on voulait une Notre-Dame identique à ce qu'elle était, on n'a pas d'autre choix que le plomb. Esthétiquement parlant, on n'a
pas d'autre choix. Il n'y a pas un autre matériau qui pouvait faire l'affaire.
Pas de cette couleur-là, sauf à la peindre en gris. Mais le zinc est plus clair, le cuivre tourne au vert de gris. On a des très belles couvertures en cuivre de cathédrale, à Chartres, à Saint-Denis, à Dijon. Mais ce n'est pas Notre-Dame. Et Notre-Dame, il y a une historicité du plomb, une identité liée à la présence du plomb. Et c'est ce qu'on a fait aussi à Reims, quand elle a brûlé pendant la Première Guerre mondiale.
Donc, on respecte les matériaux de l'époque, on essaie de se rapprocher en fait le plus possible des matériaux de l'époque, Jean-Louis Bidet, et puis on réinterprète l'intérieur, par exemple le mobilier liturgique ou des vitraux. C'est ça, ça pour vous, ça vous convient, cet esprit-là patrimonial autour de Notre-Dame ?
Qu'il faut conserver, redécouvrir, rendre visible de nouveau. Parce que Notre-Dame, aujourd'hui, à travers tous ces savoir-faire qui sont réapparus pour certains, d'autres qui existaient peut-être en sommeil, et aujourd'hui peuvent se partager sur d'autres réalisations dans le patrimoine autre que Notre-Dame. Je précise pour le plomb, par rapport à ce qui est dit à l'instant, il y a énormément de sculptures, modes de nature, moulures à couvrir, et le plomb est un matériau tout à fait malléable et qui s'adapte parfaitement à ce que pourraient pas faire d'autres...
Donc c'est un matériau inégalable pour ce qu'on le...
Oui.
Pour ce qu'on lui demande de faire en ce moment, quoi.
De par sa forme, de par sa maniabilité, voilà.
On a une question de Olivier de Saint-Malo sur WhatsApp qui nous dit combien de personnes ont travaillé sur ce grand chantier, Mathieu Lours.
Je crois que c'est à peu près un millier de personnes qui, à un moment ou un autre, ont travaillé à Notre-Dame, si je me souviens bien. Donc c'est assez comparable à un chantier de cathédrale médiévale. Ou tout corps de métier confondu, sur une dizaine d'années, c'est à peu près ces chiffres qu'on pouvait trouver.
Est-ce que finalement, vous trouvez que les gens ont été surpris et ont redécouvert le savoir-faire de nos artisans ? Parce que bâtir une cathédrale au XXIe siècle, on n'y pense pas, en fait.
Oui, et surtout, on ne s'en rend pas compte, parce que des travaux de restauration d'ampleur sur des monuments historiques, on en a de manière continue depuis le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en réalité, tous ces savoir-faire, ils sont à l'œuvre, mais ils n'avaient jamais été, depuis la Deuxième Guerre mondiale, rassemblés sur un édifice blessé à ce point-là. Parce que ce qu'on voit à Notre-Dame, il faut bien voir qu'après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu. On l'a vu, ça a été mis en sommeil, il y a eu des interventions d'excellence de charpente, le Parlement de Rennes quand il a brûlé, par exemple, mais la synergie complète, et puis l'attention aussi populaire à cause de l'émotion de l'incendie.
Mais alors pourquoi cette émotion patrimoniale autour de notre... Pourquoi cet attachement si particulier à Notre-Dame de Paris et cette émotion mondiale ?
Parce que c'est la seule cathédrale nationale qui soit devenue aussi un symbole culturel. Elle incarne le rapport entre la France, le sacré, son pouvoir, mais grâce à Victor Hugo, grâce au roman et grâce ensuite aux dessins animés, aux comédies musicales, elle est devenue un objet culturel qui parle non seulement à la raison, mais aussi à l'émotion et à toutes les échelles. Paris, la France, le monde.
Est-ce que Victor Hugo l'a un peu sauvé à son époque, Notre-Dame
de Paris,
qui était un peu tombé dans l'oubli, on va dire ?
Victor Hugo a réussi la première campagne d'opinion permettant de sauver un monument historique en France, à l'échelle nationale. Avec Notre-Dame de Paris, il y a une véritable opération qui va avec d'autres textes de Hugo, quand il dit « halte aux démolisseurs », enfin il y a d'autres, il y a tout un corpus hugolien sur le patrimoine, mais il arrive surtout à faire de la cathédrale un personnage. C'est la première fois que le titre d'un roman c'est le nom d'un édifice. Donc ça crée une personnalisation qui évidemment crée de l'affectif. C'est la première fois qu'il y a un rapport affectif avec un monument.
Un rapport affectif. Flavie Vincent Petit, j'aimerais bien qu'on retourne à vous, parce que comme vous n'êtes pas en studio, on a tendance à vous oublier un petit peu. Hein. Je rappelle que vous êtes maître verrier, c'est-à-dire que vous avez restauré les vitraux. Concrètement, comment fait-on ?
Alors, ça dépend des chantiers, mais là, à Notre-Dame, en fait, ça a commencé, là pour le coup, comme tous les chantiers, par des phases vraiment d'observation et de constat d'état, panneau par panneau, pour vraiment serrer les altérations, voir les pathologies, pour ensuite établir des protocoles. Parce que là, en fait, quand on parle justement de cette synergie, ce qui était vraiment intéressant à Notre-Dame, c'est qu'on était 8 ateliers. Habituellement, on est tout seul sur un chantier, donc en fait, les protocoles ne s'appliquent qu'à nous. Là, en revanche, il fallait harmoniser en fait l'ensemble des procédures pour vraiment que les vitraux soient restaurés de la même manière, quel que soit l'atelier.
Et ils étaient justement altérés de quelle manière ?
Alors, ils étaient déjà altérés par le passage du temps, puisque tous les panneaux des baies hautes, en fait, étaient des panneaux qui avaient été posés entre 1855 et 1865, à l'époque de Viollet-le-Duc, et ils n'avaient pas vraiment été restaurés depuis. Donc, on avait vraiment des couches d'altération, des dépôts exogènes dus à la respiration, en fait, à l'intérieur de Notre-Dame, ou des suies de bougies ou d'autres pollutions internes. Et puis, il y avait vraiment toutes les suies également de l'incendie. Mais les vitraux, en fait, n'ont pas été réellement... Il n'y a pas d'altération irréversible. En fait, tout était réversible. Et puis, grâce finalement à l'intervention des pompiers qui n'ont absolument pas arrosé les baies avec de l'eau, il n'y a pas eu de choc thermique. Sinon, ça aurait volé en mille morceaux.
Qu'il y a eu de la casse
Très peu. Il y a eu quelques panneaux, mais vraiment quelques-uns, moins de 5, qui ont été un peu abîmés lors de la chute de la flèche. Mais sinon, en fait, il n'y a pas eu de casse, donc rien d'irréversible.
Donc vous avez fait essentiellement du nettoyage avec des techniques modernes ?
Alors, on a fait beaucoup de nettoyage et vraiment avec un bâtonnet sur du coton sur un bâton, on roule tout doucement pour vraiment vérifier la couche picturale. Et parce qu'en effet, il y avait certaines couches picturales, notamment dans les vitraux de la sacristie, de la chapelle ou du cloître, qui étaient extrêmement fragiles. Donc là, c'était vraiment un nettoyage extrêmement précautionneux pour vraiment retirer les couches d'altération du temps et de l'incendie.
Et est-ce que vous avez essayé de retrouver le geste originel de l'artiste, comme on le disait tout à l'heure sur la charpente ?
Alors là, c'était comme il n'y a pas eu de lacune, on n'a pas eu besoin de combler la lacune. Donc de ce fait, en fait, il y a eu quelques pièces à repeindre, mais vraiment de façon très ponctuelle. Donc là, en effet, l'idée, c'est d'observer le geste du peintre et par l'observation reproduire ce geste. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et à Notre-Dame, c'est assez intéressant puisque justement les baies hautes, Viollet-le-Duc, qui a travaillé avec l'un verrier de Metz qui s'appelait Maréchal de Metz, ils ont voulu redonner la vibration colorée des vitraux du XIVe siècle. Quand on regarde de près, ce sont des vitraux qui sont peints avec des grisailles colorées et avec des enlevés assez un peu brutales, pas très bien finis. Mais en fait, dès qu'on les nettoie et qu'on les repose, ça se met à scintiller comme ce que Viollet-le-Duc et Maréchal s'imaginaient être des vitraux du Moyen-Âge pas altérés. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie émotion, en fait, de se dire j'observe les techniques et finalement, ces techniques, elles racontent une autre histoire.
Alors, si vous nous rejoignez sur France Inter, vous écoutez Le Téléphone Sonne et toutes les questions que vous vous posez sur la reconstruction de Notre-Dame, puisqu'elle a brûlé il y a 5 ans jour pour jour, c'est ici et maintenant. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à 20h. On a Pascal qui nous appelle de Bayonne, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, au risque de paraître insistant, puisqu'on en a parlé assez longuement en début d'émission, je voulais revenir une toute dernière fois sur la charpente et sur ce qui paraît être quand même, dans ce chef-d'œuvre admirable qui est en train de se remonter, une énorme prise de risque sur l'avenir. Je veux parler d'une charpente totalement inflammable, à 35 ou 40 mètres du sol, inaccessible à la plupart des moyens d'extinction du feu. Les pompiers l'ont démontré au mois d'avril 2019. Dans un siècle où on atteindra des températures de 50, 55, 60 degrés peut-être, là où il y aura un risque terroriste qui n'ira que se majorant, et pour installer une charpente que personne ne verra en dehors de ceux qui sont en charge de leur surveillance, c'est-à-dire pas le grand public. Donc je comprends la symbolique, je comprends le côté sentimental magnifique d'avoir reconstruit à l'identique tout ce qu'on a expliqué, mais je trouve que c'est un petit peu un caprice de M. Villeneuve, je pense, au tout départ, de reconstruire cette forêt-là, alors qu'un matériel moderne, des arceaux qui auraient été interchangeables au fur et à mesure du temps, et pourquoi pas, soyons modernes, recouverts de panneaux photovoltaïques imitant l'ardoise qui aurait rendu le bâtiment Notre-Dame autonome en énergie, me semble que le vrai geste du XXIe siècle aurait été celui-là.
Mathieu Lours, pour répondre à Pascal.
Bien, je pense qu'on peut aussi faire des gestes du XXIe siècle en construisant peut-être des églises au XXIe siècle, suivant ces techniques-là. Mais là, on est sur un édifice patrimonial. Philippe Villeneuve, qui en est l'architecte, n'agit pas seul. Il y a toutes les instances de contrôle du ministère de la Culture qui valident le choix. Et encore une fois, il y a, comme le disait Jean-Louis Bidet, il y a des aspects techniques aussi. Cette charpente porte les charges exactement là où les charges sont depuis 8 siècles, dans certains cas, et puis recalculées par Viollet-le-Duc. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on ne laisse pas la charpente sans protection incendie. Le système de brumisation, avec possibilité d'isoler par des fermes métalliques 3 compartiments, réduit tout ça, ça réduit considérablement le risque d'incendie. Quant à l'ardoise, encore une fois, ça altérerait profondément l'esthétique de la cathédrale. Parce qu'on aurait les toitures en ardoise et la flèche en plomb, par exemple.
D'accord.
Ça modifierait tout.
Jean-Louis Bidet, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, tous les champs possibles ont été explorés et mis en œuvre pour la protection de la cathédrale dans le comble, en fait, sur la charpente. Les accès futurs, il y a des colonnes sèches qui montent pour des réserves d'eau possibles, il y a des détections d'incendie, il y a énormément de choses que le grand public ne connaît pas, parce que c'est des choses techniques qui sont mises en œuvre méthodiquement pour avoir une efficacité au cas où, en fait.
C'est ça. Alors, il y a beaucoup de questions sur la charpente au standard. Il y a Agnès aussi qui nous appelle de la Marne. Bonsoir Agnès.
Allô ?
Oui, c'est à vous Agnès, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Agnès de Écarpe dans la Marne.
Oui.
Je vous appelle. Je me disais, une charpente en principe, ça se fait avec du bois sec. Donc là, étant donné que les arbres ont été abattus pour la charpente de Notre-Dame, j'aurais voulu savoir de quelle façon on les avait séchés.
Alors ça, c'est une question qui a été posée au moins 5 ou 6 fois au standard. Jean-Louis Bidet.
Nous sommes en 2023-24, les bois ont été mis en œuvre frais après l'écarissage, et comme ils ont été mis en œuvre dans les mêmes situations au 12e-13e, il faut savoir que les bois, on a reproduit exactement le même schéma. Les bois étaient coupés, automne-hiver ou hiver-printemps, taillés relativement vite parce que c'est beaucoup plus facile avec les outils des haches notamment de tailler du bois frais, de laisser une trace de l'outil propre sur le côté pour bien écarir. Les bois peuvent se reposer quelque temps avant d'être taillés et assemblés pour créer ces charpentes assemblées, ou ils peuvent se mettre relativement vite en œuvre. Les bois sécheront lorsqu'ils seront, c'est le cas aujourd'hui sur les murs. La charpente, elle a tenu 850 ans dans ces conditions-là. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de la même manière à venir. Alors, elle était vérifiée.
Tout à l'heure, il y avait un auditeur qui posait une question sur le réchauffement climatique. Est-ce que le bois résiste au réchauffement climatique, ou est-ce que ça peut avoir un impact ?
Le bois, par définition, est un matériau isolant, déjà, dans sa constitution. Aujourd'hui, on utilise de la laine de bois plutôt que d'autres matériaux. C'est un matériau naturel qui peut être employé pour la maison d'habitation de tout à chacun. Le bois s'adapte, le bois sèche tranquillement. En l'occurrence, il est protégé sous les toitures, il y a une ventilation, donc il va sécher tranquillement par rapport à dans l'emplacement où il est aujourd'hui. Alors, d'un point de vue technique, la charpente a été calculée à travers sa résistance pour en bois vert, et on a fait une projection à travers sa résistance en bois sec dans quelques dizaines d'années pour voir comment elle se comporterait. Et ça fonctionne.
Une question de Benoît sur WhatsApp. La pression mise par le politique et l'opinion pour accélérer le chantier et tenir les délais a-t-elle joué sur la qualité des travaux du point de vue des compagnons chargés de l'ouvrage ? Je vous pose la question, Jean-Louis Bidet, par exemple.
Aucunement. Aucunement. L'objectif numéro un est la qualité, de rendre ce qui est attendu en termes de restitution par rapport au cahier des charges. Et les délais, les choses s'organisent, les effectifs, les ouvertures d'ateliers plus ou moins complémentaires. Et le chantier Notre-Dame a une organisation, elle est calibrée en fait. L'établissement public a calibré le chantier pour accueillir les quelques centaines de personnes, pour être dans les délais, avec des opérations, des sous-opérations. Et ce qui rend la tenue du délai possible et réalisable, et ce qui est le cas.
Mmh. Qu'est-ce qui reste à faire encore, Mathieu Lourse? Ah bah l'orgue, le grand orgue et ses 8000 tuyaux.
Il y a le grand orgue et la grande voûte aussi, ouais. La plus grande des voûtes de la cathédrale, celle de la croisée du transept, elle interviendra un petit peu plus tard. Ça sera vraiment un morceau de bravoure. Et puis le grand orgue.
Alors le grand orgue, il faut nous en parler quand même, parce qu'on avait pas mal de questions au standard au début. 8000 tuyaux.
C'est ça.
Il faut combien de temps pour le réaccorder, alors, si j'ose dire?
L'orgue a été préservé au moment de l'incendie, c'est un peu comme les vitraux, ça tient du miracle, mais il a été empoussiéré. Alors, il a fallu dépoussiérer l'ensemble des tuyaux. Maintenant, il faut réharmoniser, réaccorder l'ensemble. Et ça peut se passer qu'à la fin du chantier, après les risques de dégagement de poussière. Donc, ce sera l'affaire des derniers mois du chantier que de redonner sa voix à Notre-Dame.
Notre-Dame, elle va passer finalement de l'ombre à la lumière, parce qu'on l'a entendu, le temps avait noirci les murs, les fresques. Elle va être lumineuse cette fois ?
Oui, lumineuse au sens de ce que les architectes du gothique voulaient. C'est-à-dire que les architectes du gothique ne voulaient pas que les vitraux donnent l'impression d'être dans une caverne, des points de lumière dans une caverne. Ils voulaient que ces vitraux jouent sur des surfaces murales d'une blondeur qui permette d'en refléter les couleurs et d'en exalter les couleurs. On peut déjà voir ça à la cathédrale de Chartres depuis sa dernière restauration, et c'est quelque chose dans cet esprit-là qu'on va voir à Paris, qu'on peut déjà voir à l'intérieur, qu'on peut imaginer parce qu'il y a encore des échafaudages qui obscurcissent les parties hautes, mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la révélation architecturale.
Architecturale et sur les peintures aussi, parce qu'on va retrouver des couleurs incroyables.
Les peintures étaient, un, encrassées, et deux, elles jouaient sur un fond grisâtre, qui était en fait de la crasse. Aujourd'hui, les couleurs, tout ce qui est en couleur, va apparaître de manière beaucoup plus nette sur cette blondeur du fond architectural.
On a une note vocale de Brice, on l'écoute.
Est-ce que lors de cette restauration, on a fait attention justement à récupérer de l'énergie d'une certaine façon, peut-être avec des panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'on a pensé à récupérer les eaux de pluie? Est-ce qu'on a pensé à toutes ces petites choses qui sont de l'ordre de la modernité
et de l'écologie, j'ai envie de dire. Voilà, c'est presque une question écolo.
Alors, sur la question des eaux, tant que le chantier est pas propre, entre guillemets, de la question du plomb, on n'est pas censé réutiliser de l'eau qui est potentiellement contaminée. Mais évidemment, tout au long du chantier, les normes écologiques ont été prises en compte, comme la loi y oblige. Alors, les panneaux photovoltaïques, les installer, les désinstaller, ça n'a pas été jugé particulièrement pertinent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le travail en amont, tout le travail des entreprises, est fait en fonction de la législation en vigueur.
Mmh. Donc, Jean-Louis Bidet, vous confirmez ?
Oui, en termes d'écologie, si on parle du bois, en fait, on a pris un arbre, on l'a coupé, on l'a équarri avec un travail manuel et un outil, très peu d'énergie venue d'ailleurs, en fait. C'est d'abord la main de l'homme. Donc, et ensuite, essentiellement du travail manuel, quelques grues quand même pour aller monter tout ça dans le ciel de Paris sur les murs bahuts. Mais sinon, ça a déployé très peu d'énergie nouvelle, en fait.
De même que l'acheminement de certains matériaux par la voie fluviale, qui est beaucoup moins polluante que la voie routière, par exemple.
Tout à fait.
Mmh. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat et d'avoir dialogué avec les auditeurs. Je signale aussi pour les passionnés la sortie du numéro 6 de la Fabrique de Notre-Dame. C'est le journal de la restauration que l'établissement public chargé de la reconstruction publie régulièrement pour une plongée au cœur du chantier. 12 € chez votre marchand de journaux, et au passage, ça fait aussi de vous un donateur. Encore merci à vous tous.